première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 septembre. Pays de papier, les livres de voyage et romans photos.
Ce ne sont pas des récits de voyage, ce sont des descriptions de lieux, de villes, de pays. Le titre de l'exposition, Pays de papier, et puis le fait que, voilà, que ce sont des livres qui ont vocation à se substituer un petit peu à la visite du pays ou à donner envie de s'y rendre.
Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 septembre. Pays de papier, les livres de voyage et romans photos.
Des textes de Sandra, donc, qui a collaboré avec Douaneau, mais aussi avec Isis au Paris des rêves. On a des textes de Giono, qui a très souvent été sollicité pour ce genre de livre. Des textes de Nicolas Bouvier, qui était à la fois écrivain et photographe. Beaucoup de textes de poètes, des gens comme Jean Tardieu, comme Audi Berti. Notamment sur les livres sur Paris, qui ont beaucoup demandé de textes poétiques à des auteurs des années 50 et 60.
C'était souvent des livres de commande, c'est pour ça que dans la bibliographie de ces auteurs-là, souvent c'est pas des textes mis en avant, souvent c'est des petites préfaces, et donc c'est pas des textes auxquels ils ont apporté une grande importance. Je dirais qu'il y a une exception majeure, qui est Claude Roy, dont tu peux peut-être dire un mot, qui est un auteur un peu moins connu, mais qui lui a vraiment excellé dans ce genre.
Oui, donc Claude Roy, effectivement, était d'abord connu comme poète, et en fait il a beaucoup participé à la Guilde du Livre, donc un des éditeurs principaux de l'exposition, un éditeur de Lausanne, en fait, club de livres, club de vente par correspondance aussi, dont le directeur était Albert Mermoux, qui était un véritable chef d'orchestre de cette édition illustrée, de belle édition illustrée.
Il y a un vrai savoir-faire en Suisse romande pour l'impression d'image, c'est ce qui explique qu'ils étaient vraiment à la pointe, surtout après-guerre, où, disons que dans le reste de l'Europe, la qualité du papier n'était pas toujours au top.
Et donc Claude Roy a signé la France de profil qu'on présente dans l'exposition et la Chine dans un miroir qu'il a entièrement conçu, dont il a conçu l'iconographie, la maquette. C'est lui qui allait chercher des documents inédits, des dessins, des aquarelles.
C'est vraiment un chef-d'œuvre méconnu de la littérature illustrée qui est vraiment, connu que des spécialistes en fait. Et là, on espère que ça permettra de le faire redécouvrir à un certain nombre de personnes. Le problème aussi de ces livres-là, c'est qu'ils sont assez vite périmés puisqu'ils font le portrait d'un pays à un moment T. Et puis, au bout d'un moment, c'est fini, le pays ne se ressemble plus. Et donc, ce qui fait que, commercialement, à moins d'avoir des hyper chefs-d'œuvre qui ont fait parler d'eux, c'est difficile à rééditer pour un éditeur.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, m'tentop, m'tententententom, stélé.
Le monde invisible.
Pays de papier. Avec America Parasmart, David Martens, Anne Reverso et Marc Washburn.
La question, c'est tous ces photographes et tous ces auteurs qui, après 40-45, et puis surtout après l'avènement des fameux congés payés dans les années 35-36, cette déferlante d'envie de connaître le monde, cette envie de faire du tourisme. Le tourisme existait depuis le 19e et bien avant. Mais ici, c'est une démocratisation du voyage. Et donc, l'exposition retrace de manière livresque et de manière imagée tous ces auteurs et tous ces photographes qui, à un moment donné, ont photographié le monde et qui ont écrit des articles et dont les images ont été publiées dans les livres consacrés soit à une thématique particulière, l'Égypte, Rome, la Grèce, mais également dans des articles de magazines, comme le magazine Vue.
David Martens.
Anne Reverso.
Anne
Reverso.
Ce qui unit au Musée de la photographie à Charleroi deux expositions, c'est un homme encore, dont on a parlé cet hiver au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, c'est Chris Marker.
Absolument.
Pourquoi ?
Parce que Chris Marker a été un vrai touche-à-tout du texte, du cinéma, de la photo, de l'image, et que donc on retrouve des éléments de son travail dans l'exposition sur le roman photo. De notre côté, il est présent pour deux éléments particuliers, c'est qu'il a été le directeur de l'une des collections les plus intéressantes, les plus modestes par ailleurs, puisque c'est une collection de poches éditée par le Seuil à partir du début des années 50, qui est la collection Petite Planète, qui est un petit peu mythique dans le monde éditorial et que François Maspero considérait comme, donc un autre éditeur de l'époque, considérait comme la collection la plus intelligente du monde éditorial français de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres collections qui mettent en valeur le patrimoine de façon parfois un peu pompière, je dirais, Marker, il y a un travail de montage des images, et là aussi d'orchestration, mais du travail d'autres auteurs, parce qu'il n'a signé aucun volume de Petite Planète. Et par ailleurs, on lui doit quand même un truc assez important dans l'histoire de la photo, c'est la publication au Seuil, puisqu'il était éditeur au Seuil, des premiers William Klein, dans une collection qui s'appelait alors Album Petite Planète, qui sont en fait des albums photos d'assez grande envergure. Voilà, donc la raison pour laquelle il est présent dans notre exposition, c'est par ce biais-là, sur lequel il travaillait d'ailleurs aussi au cinéma, parce que Lettres de Sibérie, Description d'un combat, le film sur Israël, ce sont des portraits de pays, mais sous une forme documentaire pour le cinéma.
Musée de la photographie et Charleroi, jusqu'au 22 septembre, Pays de papier et romans photo, par Thierry Genicot.
Dans cette collection effectivement très modeste, on avait des grands noms de la photographie. Enfin, là, dans l'exposition, on trouve plusieurs photos d'Agnès Varda, par exemple, notamment le volume sur la Chine. Et c'est vraiment le cas dans toute la collection. Vous avez à la fois des photos d'agences, des photos d'offices du tourisme, mais aussi de véritables chefs-d'œuvre de la photographie qui figurent en format très modeste, sur une impression finalement assez modeste aussi.
Oui, s'agissant de ce voyage en Chine, d'ailleurs, c'était un voyage dont tout ce petit monde se connaissait un peu. C'est un voyage qui a été orchestré en fait par Claude Roy, et il se trouve que Marker, du coup, on lui a donné des bandes. Il a fait son film Dimanche à Pékin, pour lequel il a crédité fictivement Agnès Varda pour conseil en sinologie. Elle y connaissait évidemment absolument rien, et il se trouve qu'elle était avec eux, et du coup, elle a fait des photos qu'ils ont reprises dans le volume de Petite Planète, qui est d'Armand Gatti. Et en fait, tout le monde est allé là-bas et est revenu avec soit un livre, soit un film. Donc c'était un voyage productif, je dirais.
À la Bibliothèque Royale, boulevard de l'Empereur, au troisième étage, trône une carte qui a été faite dans les années 58, je pense.
Oui, c'était, je pense, pour l'Expo Universelle, effectivement.
Oui, par les étudiants de la Cambre, sous la conduite du professeur, à l'époque, Paul Delvaux, hein, qui était professeur à la Cambre, et les étudiants ont travaillé à cette carte. Vous pouvez la décrire?
Alors, je ne l'ai pas en tête exactement, mais il me semble que c'est une carte littéraire de la Belgique, donc où les auteurs sont placés à des points géographiques particuliers. Donc,
où ils sont originaires, où ils ont vécu.
Ou dont ils ont parlé, justement. Et effectivement, c'est une sorte de carte littéraire et de carte mentale aussi, carte d'une Belgique imaginaire, qu'on aurait pu imaginer en clôture de l'exposition.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Marc Washburn, ici au Archives et Musées de la Littérature, devant une chose, je dis volontiers une chose, qui est à cheval sur les arts plastiques et sur la littérature. Une carte de Belgique, dont l'auteur est Paul Delvaux, mais les exécutants, s'il y en a plusieurs, sont, vous savez,
c'est indiqué là. Il y en a eu plusieurs, c'est son atelier. Hein.
À la Cambre, en 58, voilà. En mars.
Les élèves de la Cambre, Thon ou Villain et Van der Strik.
1958.
Ouais.
Pourquoi 1958? C'est l'expo.
C'est l'expo. C'est l'expo universelle. C'est le moment où va paraître le Charlie Hans, c'est-à-dire une vision qui est aujourd'hui dépassée, mais qui a à voir avec ça, qui reprend l'ensemble de la production, on ne dit pas encore francophone à l'époque, en français, dans la Belgique romane, qui inclut d'ailleurs la Flandre. Et Hans et Charlier vont depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc, au moment où paraît ce monumental ouvrage, où il n'y a rien sur le surréalisme par ailleurs, paraît cette carte, où on va d'ailleurs retrouver quelques traces de la production en français ou en vieux français au Moyen-Âge dans nos provinces, dans ce qui restait de nos provinces qui n'a pas été annexé par les autres. Et donc, il y a une commande qui est faite à Delvaux par l'État belge pour un pavillon de la littérature. Et par rapport à quoi Delvaux ne va d'ailleurs pas demander une fortune puisque ça a coûté 50 000 francs belges. C'est pas 50 000 francs belges d'il y a 10 ans, mais enfin, c'est bon. Et vous avez dit fort bien, on est entre littérature et la peinture. Moi, je dirais, il y a quelque chose dans ce tableau tout à fait singulier de l'ordre de la BD. C'est une sorte de BD par Delvaux de la littérature, avec, je ne vais pas dire l'absence de la troisième dimension, mais enfin quand même quelque chose de... Hein, il manque cette sorte de profondeur qui est le problème de la peinture occidentale. Première chose.
Le genre est encore vivant, peut-être pas sous la forme du livre, mais sous la forme radiophonique. On trouve beaucoup de chroniques, de portraits de villes dans les radios francophones, sous la forme cinématographique, sous la forme de web documentaire. Pour ce qui est de la forme du livre, on a remarqué que petit à petit, la place des écrivains avait, disons, diminué. On avait fait de moins en moins appel aux écrivains ou aux poètes pour venir commenter ou apporter un texte vis-à-vis des photographies.
Ils servaient un peu de produit d'appel, parce qu'ils étaient souvent plus connus à cette époque-là que les photographes.
Voilà, ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment depuis les années 80, on trouve de plus en plus, disons, de portraits de pays ou de portraits de villes, mais qui sont signés des seuls photographes. Enfin, on pense à Depardon.
Et qui signe lui-même ses textes. Il n'a besoin de plus personne pour l'accompagner, disons.
Ce tableau, qui va donc faire les délices des années 58, est aussi la plus grande œuvre que Delvaux ait peinte. Même si c'est avec des élèves. Elle fait quand même 4 mètres sur 2. Il y a des grandes œuvres de Delvaux, mais pas celle-là. Donc c'est un tableau qui a un statut singulier. Il n'est pas peint sur de la toile, il est peint sur des panneaux d'agglomérés de l'époque, qui ne sont pas d'une qualité, disons, comparable à ce que peut être l'aggloméré d'aujourd'hui, et qui va d'ailleurs entraîner un des problèmes intéressants de la restauration de cette pièce. Donc voilà, c'est un truc, voilà, des années 58, et qui est quand même un fait assez rare, même si vous prenez les musées de la littérature des pays d'Europe centrale et orientale, puisqu'il n'y en a pas vraiment à l'ouest, à part nous, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents, voire qu'il n'y en ait pas. Et en plus, c'est quand même, il ne faut pas le nier, c'est la signature d'un grand peintre, on retrouve ses femmes, enfin, bon. Et si on le regarde de près, c'est très intéressant, parce que cette dimension BD, j'ai envie de dire, elle est presque double ou triple. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez trouver Picard à Bruxelles, et vous allez le trouver aussi dans sa demeure ardennaise. Et donc, il y a un positionnement dans la limite de ce que permet, je ne vais pas dire la toile, mais l'espace pictural, des déplacements aussi de certains de ces auteurs à l'intérieur du royaume. Il y a un mélange de la littérature belge stricto sensu 19e, 20e, du grand passé médiéval. Et il y a aussi quelques visiteurs étrangers. Donc on a Guillaume Apollinaire, on a Hugo à Waterloo. Donc on est devant la Belgique littéraire avec une dominante belge, mais quand même quelque chose d'un peu plus large. Qui a conseillé Delvaux à l'époque? Je ne sais pas. On peut évidemment toujours dire il manque ceci et cela. Moi, je trouve quand même que c'est assez extraordinaire ce qu'il est parvenu à mettre sur un espace de 4 sur 2. Et qui est évidemment dans la logique du Charlie Ann. Donc les surréalistes, ça, vous pouvez chercher.
Mais oui, car une ville comme la Louvière est
là,
absente.
Mais le jour où je dis à Hans, mais enfin, monsieur Hans, comment vous avez pu faire ça? Il me répond, bah, quoi peur. L'Académie du Monde, ça n'a aucune importance. Vous avez 10 ans pour rattraper le retard. Donc, c'est aussi un document historique à ce niveau-là. C'est très riche, mais il y a quelques tabous majeurs qui sont grosso modo ceux du Charlie Ann. Donc on peut même se dire que sans doute ça a été fait à partir de quelqu'un qui a lu le Charlie Ann ou qui est parti du Charlie Ann ou qui est un des auteurs. Il ne faut pas l'exclure.
Les gouvernements, les pays, créaient des stations balnéaires, des lieux spécialisés de tourisme. Et c'était déjà un tourisme de masse qui existait au XIXe siècle. La différence, me semble-t-il, avec le XXe siècle, c'est que l'accès se fait au plus grand nombre, qu'il y a l'arrivée du chemin de fer qui va contribuer à ça, et puis surtout de l'avion, qui va aussi, entre guillemets, permettre des voyages de plus longues distances.
Il y a aussi ce fait qu'il y a la Belgique générale, et puis il y a Bruxelles sur la gauche, où il y a de nouveau une réduplication de ce qui se trouve à l'intérieur de l'Hexagone et un peu autour. Donc c'est une BD à plat, mais avec quand même une sorte de pas dire de volume, mais enfin, il y a quand même plusieurs dimensions du fait de la complexité relative, je dirais, de la construction. Et puis, bon, ben, ça aussi, c'est, le choix est clair, je l'ai dit, c'est un très beau poète, c'est Odilon Jean Perrier. Donc, on est, je pense, vraiment devant un monde qui est cette Belgique de 58, d'avant la communautarisation, et de cette vision de la littérature belge qui est propre, oui, qui est propre à l'époque qui suit la question royale.
Tiens, je pense, Marc Washburn, Perrier, Perrier, les Perrier, Paul Delvaux fait une fresque chez les Perrier qui appartiennent à la famille du père.
On me l'a dit, mais je ne l'ai pas vu.
Donc, oui, oui,
je
oui,
vous
oui.
crois, on me l'a toujours dit. Mais
et c'est
pas
vers
vu.
Ces années-là, donc.
Voilà, oui, c'est lié. Ben, les Perrier, en plus, c'est le général Theiss. Donc, c'est le Congo. Le grand-père, c'est un des hommes clés de la conquête coloniale. Donc, on est dans un monde. Et justement, cette toile, elle est décodable, je trouve, à des tas de niveaux. Pas dire au niveau pictural, mais enfin, si, quand même, les figures qu'il a reprises. Et ce que je trouve fascinant, si je peux le dire, puisque moi j'ai quand même vécu avec cette œuvre pendant des décennies, depuis qu'elle est restaurée, on la voit autrement. On la voit quand même plus comme un tableau que comme un document. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de trous que, bon, on regardait anecdotiquement. Et maintenant, ce n'est évidemment pas les grandes toiles des grands musées, mais on la regarde quand même comme une œuvre plastico-bédéistique, je dirais.
Alors ce tourisme de masse, il existe et il existe depuis le début. Les chutes du Niagara au XIXe siècle, c'est un haut lieu de tourisme de masse. Et déjà au XIXe siècle, on voit déjà des studios de photographes qui ont pignon sur rue, directement devant les chutes, attendent le touriste. Et le touriste pose pour des daguerréotypes ou pour des vues au collodion, mais pose déjà devant ces chutes de Niagara. Donc le tourisme de masse n'est pas nouveau. Ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est le fait de voir si on va en Égypte, aller voir les pyramides, aller voir le Sphinx. Tout ça n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, ça existait déjà. Les agences touristiques comme Thomas Cook existaient depuis bien longtemps. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y a d'autres lieux qui vont devenir touristiques et surtout que les gouvernements vont multiplier les investissements pour que certaines zones de leur pays deviennent touristiques et donc vont appeler ce tourisme de masse au final. Donc le tourisme de masse, eh bien, il est voulu. Voulu comme une expansion économique et comme un moyen aussi d'attirer le monde dans des contrées où, justement, parfois, il n'y en a pas assez.
Il y a même la gare. Enfin, c'est,
oui, bien c'est, sûr, la gare.
Oui, enfin, c'est la seule gare de Delvaux qui est comme ça. Je veux dire, elle est hors du champ. Donc il y a plein de petits détails à travers lesquels on peut s'amuser, quoi. Et puis la maison des races, il y est quand même. Donc de nouveau, on a un rapport avec le 16e. Voilà. Et alors, il y a quelques beaux moments. Enfin, les bateaux, là, du côté de l'Isère, brusquement, on a une sorte de rêverie picturale. Et là, il n'y a pas de nom d'écrivain. Alors ça aussi, c'est curieux. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a un ou deux endroits où il s'est laissé aller à lui, par rapport à la commande.
Absolument, car c'est dans cette région qu'il va aussi résider.
Et hein. C'est là qu'il va en plus faire la fin de sa vie et son musée.
Fairement.
Et c'est pas du tout sûr qu'en 58, ce soit déjà décidé, même dans sa tête. Mais on a cette image-là qui, moi, me bouleverse. Enfin, je trouve que c'est très, très beau. Quoi. Voilà. C'est peut-être l'émotion débile, mais...
Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le tourisme de masse, c'est que on est dans les gros poncifs du tourisme de masse. Mais en même temps, on a plein de nouvelles propositions touristiques qui vont à l'encontre de ce tourisme de masse. Je parle au slow voyage, du voyage équitable. Par exemple, quand on va à Londres, il y a ce touring Jacques l'Éventreur, le touring Harry Potter, le touring, j'ai déjà vu aussi Jane Austen. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de tourisme qui sont en train de se développer aujourd'hui à côté de ce tourisme de masse. Et les photographes ont leur mot à dire, puisque quelqu'un comme Martin Parr, qui pose un regard terriblement sarcastique sur ce tourisme de masse, il n'est pas le seul. Barbieri aussi le pose à sa manière. S'intéresse à cet événement-là. Qui me dit que dans 10 ou 15 ans, nous n'aurons pas des photographes qui vont s'intéresser au tourisme équitable ou au tourisme particulier, je ne sais pas, moi, à Game of Thrones, ou à en faire tout un travail.
Vous avez De Coster, Adam, parce que le héros est Adam, et vous l'avez à Bruxelles parce qu'il vit à Bruxelles. Donc c'est quand même une lecture complexe, je trouve, pour ce type de support. comme là, vous avez Picard, dont je disais tout à l'heure, on le voit par ailleurs par rapport à sa maison de campagne. Stand est très peu présent. Il n'y a rien.
Non, pourtant, Gelderod n'y est pas non plus.
Gelderod, Picard...
Cromlinck.
Cromlinck, les peintres... Thierry, Willems, rien. Mais bon, voilà, c'est aussi une des particularités. La côte, c'est le sable. Comme si la littérature n'avait pas touché la côte. Vandenbosch, enfin bon, il n'y a rien. Voilà, c'est un truc étrange, mais... la guerre, il y a la psychologie, mais justement, ce qui est gai aussi dans cette vision, c'est qu'il y a des auteurs qui n'ont plus aujourd'hui la même mémoire, sauf pour des spécialistes comme moi, mais ils sont. Et je trouve que c'est bien. Mais il y a en même temps des absences abyssales, y compris des journalistes qu'il a connus.
Et vous en déduisez quoi, Marc Washburn, en disant esprit d'époque
La Belgique officielle de l'après-guerre et de la fin de la question royale se reconstruit sur une vision de la littérature que j'ai sommairement qualifiée de néoclassique, mais enfin, qui est en gros vrai, qui va de pair, en fait, avec le fantastique et le réalisme magique qui est aussi furieusement absent de la toile. Genre, n'y est pas. 58, Jean Rey n'y est toujours pas. Donc, c'est très significatif. Et les avant-gardes. Ça, en gros, c'est l'après-guerre. Et donc, justement, ici, on a la transcription picturale et bédéistique de la mémoire littéraire telle que le monde officiel belge, au moment de l'exposition universelle, entend le faire entendre, avec des formes d'ouverture, d'ailleurs, au tiers, mais avec aussi des impasses profondes sur une série des auteurs les plus originaux du royaume. Point. Comme ça. Et c'est ce que j'ai appelé cette vision, c'est une vision de la littérature néoclassique, idéalisante de l'après-guerre. Même Gelderod n'y est pas, Jean Rey n'y est pas. Poulet, on peut comprendre. Mais voilà, à Gand, vous ne voyez pas Helens. Oh, Helens en 58 est déjà partout dans le milieu littéraire, il tire les ficelles partout, il n'y est pas.
Et très peu de femmes.
Oui, évident. Enfin, cela dit, que Marie Gevers n'y soit pas, parce que je pense qu'elle n'y est pas, ça c'est quand même très curieux, parce que c'est déjà une diva à l'époque. Donc même elle n'y est pas. Donc en effet, c'est la transcription d'un monde dans ce qu'il a d'intelligence, ce qu'il a de limité. Et c'est une œuvre singulière qui, en effet, je pense, n'existe pas dans beaucoup de musées de la littérature. Voilà.
Si on avait voulu mettre en œuvre votre proposition, Xavier Cannon nous aurait arrêté tout de suite en nous disant « C'est bien, les écrivains, mais ici, c'est un musée de la photo. » Et il n'y avait pas de photographe sur cette carte.
Ce monde tel qu'on le voit va se fracturer à quelle occasion, Marc Washburn, 10 ans après, 68 ?
En gros, c'est 68. Enfin, je dirais, en gros, c'est 60-80, et c'est 70-75-76. Donc je pense que les premières fractures, qui ne sont pas des fractures, qui sont des fêlures, dans la foulée de la décolonisation, de la fin de l'industrie lourde en Wallonie et des lois linguistiques, il y a une série d'écrivains majeurs, ou qui vont le devenir, qui ne sont pas sur la carte. Rollin et Willems notamment, Hubert Join, Moreau, qui font entendre autre chose, qui n'est ni le nouveau roman, même s'ils en utilisent des techniques, ni le jeu Ben Gopesh, la littérature telle que moi je l'ai encore connue dans mon enfance. Puis, il y a 68 et une rupture beaucoup plus forte, enfin, bon, forcément, qui étrangement va d'abord se manifester. Si on excède Van Eghem et le traité de savoir-vivre, mais qui ne passe pas pour belge. Bon. Au moment où on est avec Marcus et Rose et Civilisation, ça va d'abord se manifester au théâtre. Et c'est les grandes ruptures de Bâle, de Libens. Bon.
La carte qui a été choisie est plus simplement une des cartes de Petite Planète qui clôturait chacun de ces volumes par une carte assez inventive au niveau graphique, souvent très colorée, parfois dessinée à la main, qui est aussi une forme de carte subjective, c'est-à-dire c'est une façon de dire le portrait de pays que vous avez entre les mains, c'est un portrait de pays plus poétique, plus subjectif que ce que vous avez l'habitude de lire dans les guides de voyage.
Au niveau belge, il me semble, il y a une série d'écrivains qui sont déjà en place, qui bougent, d'autres qui se taisent. Armand va se taire pendant 20 ans. Au moment où tout bouge, elle se tait dans toutes les langues. Bon, c'est pas ça. Il y a le théâtre. Bon, il y a évidemment plus que Libens et Palme. Enfin, en gros, pour prendre deux noms, ça bouge. Et ça commence à suivre, je dirais, dans le champ littéraire, avec évidemment Mertens, De Trait, même si en fait ça a été préparé, mais de nouveau, c'est dans le théâtre, par Louvet et Kalisky qui sont des années 60. Donc c'est vraiment, je pense, dans le théâtre que les vraies ruptures commencent, et puis ça passe dans la littérature à différents égards. C'est l'anthologie de Liliane Wouters chez Jacques-Antoine, où pour la première fois, les surréalistes sont dedans. Et ce qui se passe à la Maison des Écrivains, c'est presque la muette de Portici. Albert Expars, qui n'est pourtant pas le plus borné, fait un zona. Donc là, vraiment, milieu des années 70, ça bouge. Et c'est le moment où le mot « belgitude » va être prononcé et où se met en place cette dynamique, mais dont, je répète, elle est préparée, précédée par le théâtre et par une série d'anciens qui, pour des raisons X ou Y, bougent par rapport à la norme néoclassique, même s'ils vont se retrouver, certains d'entre eux en tout cas, Dominique et Paul, à l'Académie. Et à partir de quoi, évidemment, on ferait une autre carte littéraire aujourd'hui. Mais en même temps, c'est ça qui est chouette aussi. C'est vraiment la Belgique officielle des années 58 et que Delvaux fait porter à la mémoire du temps.
Erika Parasmart, quand vous dites ça, je pense à la collection Petite Planète aux éditions du Seuil, dirigée par un certain Chris Marker.
Oui, tout à fait. Il y a cette idée aussi du guide de voyage, mais au-delà du guide de voyage, ici, ce sont vraiment des ouvrages qui ne vous donnent pas forcément des conseils où loger, où vous nourrir, que voir, mais surtout, c'est des ouvrages qui vous donnent envie de voyager, envie d'entamer le voyage. Et c'est vrai qu'on remarque dans la photographie touristique du 19e siècle que ce type d'ouvrage, que le voyageur partait après avoir compulsé divers ouvrages sur le lieu de destination. Ici, on est vraiment dans ce type-là. Donc, le voyageur du 19e est un voyageur qui part avec déjà une connaissance de là où il va. Ici, on est dans une autre démarche, me semble-t-il. On est dans la démarche de donner envie de voyager, donner envie de découvrir. On est vraiment au XXe siècle et on n'a plus cet embourgeoisement du voyage. On est vraiment dans la démocratisation du voyage. Et donc, tout le monde peut voyager, mais c'est donner envie de voyager. C'est surtout ça.
Pays de papier. Les livres de voyage. America Parasmart, David Martens, Anne Reverso et Marc Washburn.
C'est un pan essentiel de la culture populaire qui a toujours été méprisé. Quand j'ai commencé les recherches sur le sujet, il y a plus d'une dizaine d'années, dans les couloirs du magazine pour lequel je travaillais, je suis tombée sur une pile de Nous Deux, le fameux magazine français qui existe et qui vend encore aujourd'hui en Belgique. Nous Deux a pas mal d'abonnés en Belgique à l'heure actuelle. Et je suis tombée sur cette pile de Nous Deux qui partait à la poubelle. J'ai regardé, je me suis dit, mais ça existe encore? Puis j'ai feuilleté et j'ai vu des romans photos et je me suis dit, mais ça existe encore. Donc après, j'ai commencé. Au départ, l'idée n'était pas de faire une exposition, c'était de me renseigner un peu sur le sujet. Je me suis aperçue qu'il y avait très peu de livres, très peu d'études consacrées à la question, que le roman photo avait extrêmement mauvaise réputation. On disait du roman photo, c'est de la littérature de boniche. Donc je me suis mise à enquêter. Je suis journaliste aussi à la base, donc j'ai fait un travail de journaliste, et j'ai récolté des choses. Et je vais vous raconter une anecdote qui a renforcé ma conviction qu'il fallait faire quelque chose sur le roman photo. J'ai commencé à aller évidemment dans les marchés aux puces pour chiner un peu, parce qu'on peut remplir des conteneurs hein, si on va aux puces et qu'on commence à acheter des exemplaires de romans photos, parce que ça a été une industrie phénoménale pendant 25 ans. Les revues qui publiaient du roman photo tiraient à des millions d'exemplaires. Donc si vous allez dans les greniers, dans les puces sur eBay, vous trouvez du roman photo, en veux-tu, en voilà. Mais une des choses qui m'a beaucoup plu, un des premiers exemplaires de roman photo que j'ai acheté, c'était un roman photo complet, que j'ai acheté aux puces à Saint-Ouen, et sur la couverture, au stylo bille, il y avait un nom. Et en plus, le nom était charmant, Raymonde. Et j'ai compris à ce moment-là que le roman photo avait beau se vendre à des millions d'exemplaires, il y avait encore plus de lecteurs que d'exemplaires vendus. Parce que, qu'est-ce que ça voulait dire ? Raymonde, elle avait acheté son roman photo. Elle avait mis son nom sur la couverture. Puis elle l'avait prêté à la voisine. Voisine qui l'avait prêté à sa fille, qui ensuite l'avait prêté à sa cousine. Et puis, c'est, à un moment donné, c'était revenu à Raymonde. Et j'ai trouvé très beau l'idée que finalement, ce roman photo avait créé du lien social. Parce que ça créait des petites communautés. Les gens se les prêtaient, les femmes surtout. Et puis, derrière tout ça, évidemment, on n'a pas le témoignage, mais on peut rêver, on peut imaginer, je pense que ça se passait réellement. Les femmes discutaient entre elles de l'histoire, du scénario. Et on sait aussi, il y avait, dans ces magazines qui publiaient des romans photos, il y avait une rubrique très importante qui était celle du courrier du cœur ou du courrier des lectrices. Donc les lectrices s'adressaient aux journaux pour avoir des conseils. Et très souvent, dans les courriers de lectrices de ces magazines de l'époque, on trouve des lettres où les femmes demandent que... Ah non, dans le roman photo, ne la faites pas mourir, s'il vous plaît. Elle est malade, mais... Ne la... Voilà, les lectrices interviennent sur le scénario. Et on sait que quelquefois, des scénaristes ont changé le cours de leur histoire du fait des lobbies de lectrices qui... Voilà. Donc... Comme je vous disais, ce roman photo m'a touchée aussi parce que j'ai l'impression qu'il crée du lien social, que les femmes, se les prêtaient, se les racontaient, échangeaient autour de ces romans photos. Donc voilà, c'est vraiment une tradition populaire, vraiment populaire, un ancrage vraiment populaire, qui avait été totalement passé à l'as, ignoré. Et en fait, au cours des recherches, on s'aperçoit que, bon, il ne s'agit pas de dire le roman photo, c'était des grands chefs-d'œuvre. Je n'essaye pas d'aller contre tout ce qui s'est dit. On disait que c'était souvent nié. C'est vrai que souvent, les histoires étaient un peu idiotes, etc. Mais l'autre grand aspect qui m'a touchée dans le roman photo, c'est que ça avait des vertus pédagogiques.
Roman photo, America Parasmart et Frédéric Deschamps.
Ici, on est dans l'exposition Roman photo. C'est une exposition qui retrace l'histoire mal connue et surtout mal aimée du roman photo. Alors, mal aimée, disons, par certains intellectuels, on va être clair, parce que le roman photo est très populaire. Et cette exposition permet justement de découvrir et d'aller au-delà du poncif que le roman photo, c'est des histoires, des mélodrames.
Donc le roman photo naît en 1947 en Italie. Juste après-guerre, en Italie, les statistiques sur l'analphabétisme dans la région de la Calabre, qui est effectivement une des régions les plus déshéritées encore aujourd'hui de l'Italie, 33% de gens étaient illettrés, totalement illettrés, ne savaient ni lire ni écrire. Et il n'y a pas d'études sur la question, mais on sait très bien que beaucoup de gens ont appris à lire grâce au roman photo. Donc voilà, il y avait une vertu pédagogique. Puis après, alors, le roman photo avait mauvaise presse, parce qu'on disait que c'était bêtasson. Les catholiques n'aimaient pas du tout non plus. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est des bluettes, Si on regarde, on se dit, oh, c'est des histoires, voilà. Mais pour l'époque, on s'embrassait hors des liens du mariage. Il y avait très souvent, personnage récurrent du roman photo, des filles-mères. Qui dit filles-mères dit qu'on a couché avant le mariage. Hein. Donc pour l'époque, et puis dans le roman photo, on se séparait, on divorçait, on tombait amoureuse d'un autre. Donc tout ça, ça plaisait pas beaucoup à l'Église catholique. Les intellectuels méprisaient le roman photo, les communistes aussi n'étaient pas très en faveur du roman photo parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment l'opium du peuple. Mais ça avait un succès phénoménal, ils ne pouvaient pas contrer ça. Alors c'est pour ça aussi que dans cette exposition, on a mis... Les catholiques, comme je vous disais, étaient très contre le roman photo. Néanmoins, ils ont compris quel média incroyable ils avaient. Et ils ont commencé, dans l'hebdomadaire catholique Familia Christiana, à faire des romans photos avec la vie des saints en roman photo. Et, bon, ça a été une production très très limitée, les communistes italiens, on les a exposés là-bas, ont aussi fait quelques romans photos qui sont des romans photos classiques au sens où dénouement heureux, histoire d'amour, mais tout ça sur fond de grève, d'immigration. Beaucoup de ces romans photos communistes traitaient du problème de l'immigration du sud vers le nord de l'Italie qui à l'époque était un grand sujet social. Voilà. Donc les communistes aussi ont fait un peu de romans photo pour essayer de faire de la propagande. Bon, c'était une petite tentative qui n'a pas... Il y a eu une petite dizaine d'exemplaires, je crois, qui sont conservés aujourd'hui à la Fondation Gramsci. Voilà.
Je pense surtout aux romans photo érotiques, ne nous cachons pas, hein, et puis aux romans photo noirs. Je veux dire, policier, avec du suspense, je ne savais pas que ça existait, ce genre de choses. Donc, si j'avais su, je n'étais pas très midinette, donc j'aurais préféré aller vers ce genre de littérature-là, de ce roman photo-là, plutôt que des histoires d'amour à l'eau de rose.
Pour faire une exposition, si on avait mis des magazines sous vitrine, ça aurait été très ennuyeux. Ces magazines étaient souvent en plus très mal imprimés, parce que c'était, évidemment, c'était des magazines qui coûtaient peu cher. Il fallait les vendre à beaucoup d'exemplaires, mais il fallait vendre pas cher, parce que ça s'adressait à un public populaire. Donc très souvent, c'était imprimé sur du mauvais papier. Donc mettre des exemplaires sous vitrine, ça aurait pas eu grand intérêt. Ça aurait été moche. Donc toute l'idée a été de chercher des objets originaux, qui est des maquettes, des photos, des mises en page, des hectachromes, etc. Et j'ai, sur le temps, et je continue encore aujourd'hui, j'ai acheté des choses il y a 2 jours à Charleroi, je continue à récolter du matériau, mais tous les originaux ont fini à la poubelle, parce que c'était pas considéré. Donc ils se débarrassaient de tout le matériel, des maquettes, des photos. Le magazine Nous Deux, par exemple, magazine qui, dans les années 60, a publié une série extraordinaire de romans photos mettant en scène, on les voit sur le diaporama qui est dans l'exposition, tous les yéyés de l'époque ont défilé dans le roman photo. Le premier de tous, Johnny Hallyday. Le roman photo, d'ailleurs, a été réédité par Nous Deux à l'occasion de sa mort. Sylvie Vartan, Joe Dassin, Rika Zaraï, Dalida, voilà. Donc il y a eu une flopée de romans photos dans ces années 60, mettant en scène tous les yéyés. Tout ce matériau-là a disparu. On ne sait pas où c'est parti à la benne, c'est parti à la poubelle, voilà. Donc le travail pour arriver à re-raconter cette industrie culturelle a été un long travail et que je vais continuer parce que ça m'intéresse.
Quoique même dans les histoires d'amour en l'eau de rose, je pense que, et c'est ça qui est intéressant avec cette position roman photo, c'est qu'on découvre que ce qui nous semble mélodramatique au début, à l'école italienne de cinéma qui arrive juste après la guerre, à ce qu'on appelle à ce nouveau réalisme.
Je m'appelle Frédéric Deschamps, commissaire de cette exposition avec Marie-Charlotte Calafa du MUCEM, puisque l'exposition a dans un premier temps été montée au MUCEM à Marseille. Et là, on est très content puisqu'elle vient au musée de Charleroi. Et je suis très contente des deux destinations, et Marseille et Charleroi, parce que dans l'un et l'autre cas, on est vraiment dans des villes où la culture, des villes populaires, Et donc je pense que cette exposition est à Charleroi, une ville avec une forte émigration italienne. Donc j'espère, comme ça a été le cas à Marseille, que cette exposition va drainer les amateurs de photos, mais aussi les vrais lecteurs de romans photos qui vont se remémorer ces 30 glorieuses pendant lesquelles ils lisaient des romans photos.
Effectivement, on n'est pas dans le nouveau réalisme filmique, on est dans le nouveau réalisme photographique, qui est un petit peu différent qu'au cinéma, qui est très intéressant. Et alors, on découvre Sophia Loren jeune, Jean-Paul Belmondo. Vraiment, c'est... on est vraiment plongé dans toute une époque que là, je pense, la jeunesse aujourd'hui ne connaît pas. Et donc, on est entre le mélange entre photographie et bande dessinée. C'est ça qui est intéressant. On est vraiment entre les deux, avec un art qui, au départ, est un art complètement artisanal, et puis qui devient une espèce d'industrie, mais une industrie internationale, parce qu'on retrouve des romans photos en Israël, en Amérique du Sud, au Brésil, on en retrouve partout, mais ça reste artisanal.
Frédéric Deschamps, quel est l'avenir du roman photo ?
Le roman photo existe encore aujourd'hui. Nous deux, très gentiment, a fait un partenariat avec nous de nouveau pour cette exposition et qui nous a très gentiment donné plein d'exemplaires qui seront dans le petit salon de lecture. Je ne sais pas si vous l'avez vu au premier étage, il faut que vous alliez voir, c'est délicieux. On a reconstitué un petit salon kitsch avec des exemplaires.
On est devant la sculpture de Killing, qui est un espèce de personnage de roman photo, une tenue ultra collante, avec une impression de faux os, un squelette, avec un visage assez effroyable, avec une certaine carrure. Il combat le mal.
Nous deux existent encore aujourd'hui et vend 250 000 exemplaires par semaine. Notamment beaucoup grâce à ses abonnements. Donc, ce roman photo-là, classique, existe encore. En Italie aussi. Certes, c'est plus du tout ce que c'était autrefois, hein, c'est plus les millions d'exemplaires. Et puis, à côté de ça, on voit apparaître, depuis quelques années, des romans photos qui sont dans la mouvance de ce qui aujourd'hui, le graphic novel, qui est très à la mode aujourd'hui. Donc il y a des gens qui font des romans photos. Alors il y a même une petite maison d'édition à Poitiers, en France, Feu le Bleu, qui édite des bandes dessinées, et qui est toute une petite, un petit rayon romans photos, qui a publié des choses très intéressantes, notamment un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pauline à Paris, où je ne sais plus le nom de l'auteur malheureusement, il a mis en scène sa grand-mère qui raconte une histoire, et donc il a photographié sa grand-mère sous forme de, tout ça sous forme de roman photo, et la grand-mère raconte une histoire. Il y a eu une autre réalisation que j'ai souvent saluée parce que je le trouve très réussi. Un photographe et une journaliste ont réalisé pour la maison d'édition des Arènes un livre qui s'appelle « L'illusion nationale ». En fait, ce journaliste et cette photographe avaient proposé au magazine 21 de faire un reportage, dont texte et photo, sur les villes qui avaient été conquises par le Front National en France. Et le rédacteur en chef de 21 leur dit « Oh oui, mais bon, est-ce qu'on n'a pas déjà lu ça 25 fois? Est-ce que c'est pas ennuyeux? Pourquoi ne feriez-vous pas un roman photo ?» Et ils ont embrayé, et ils ont fait effectivement un roman photo. Ils sont allés dans les villes en question, conquises par le Front National. Ils ont recueilli les propos, fait les photos, construit leur roman photo. Roman photo d'ailleurs qu'ils ont après montré à tous les gens qu'ils avaient interviewés pour être sûr qu'ils étaient bien d'accord sur le contenu. Voilà. Et cette tentative est très réussie parce que ça fait une forme de récit tout à fait nouvelle, quoi.
Combat le mal, mais en même temps, il a des belles petites nanas et puis il se passe des choses avec elles et c'est très amusant et en même temps, c'est toute une époque parce que les pattes d'éléphant, les cols roulés en synthétique, c'est toute une époque aussi. Et puis surtout, les histoires sont chouettes. Enfin voilà, elles sont beaucoup plus chouettes pour moi que les histoires d'amour.
Ces ouvrages-là, si vous voulez, ils sont à la bibliothèque du musée, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et il y a un autre ouvrage très réussi, je trouve, qui a été publié par Gallimard. Et les auteurs, c'est un journaliste et un photographe espagnole. Leur journal, en l'occurrence El País, leur avait commandé des reportages partout en Europe. Ils sont allés faire toute une série de reportages sur le thème des migrations, les migrants. Quand il y avait les crises en Hongrie, etc. Donc, ils ont fait leurs reportages qui ont été publiés dans El País d'une manière tout à fait classique, articles plus photos. Et après, ils ont eu l'idée d'en faire un roman photo. Là, c'est des photos recolorées. Alors, ils n'appellent pas ça roman photo. D'ailleurs, ils appellent ça... Je me demande s'ils n'appellent pas ça graphic novel, à vérifier. Mais en tout cas, c'est bien du roman photo. C'est des photos et des bulles, et des gens qui parlent dans les bulles. Donc voilà, il y a des tentatives comme ça qui sont contemporaines. Et je vous dis, là, depuis cette exposition à Marseille qui a eu beaucoup d'écho, on voit émerger pas mal de choses, de gens qui font du roman photo. Longue vie au roman photo.
Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 septembre. Pays de papier, les livres de voyage et romans photos.
Harakiri.
Harakiri est présent dans l'exposition, évidemment. Harakiri a fait partie parce que la deuxième partie de l'exposition, la première est consacrée aux romans photos classiques. L'histoire d'amour, le roman photo né en Italie en 1947 avec un... C'est un genre très corseté, le roman photo. C'est toujours, grosso modo, c'est une histoire d'amour qui finit bien, après multiples drames. Et la deuxième partie de l'exposition est consacrée à tout... Non, pas tous. Justement, cette exposition n'est pas exhaustive et ne voulait pas l'être, ce serait impossible. Parce que ça a été une production énorme pendant plus de 25 ans. Donc, il est impossible de couvrir tous les aspects du roman photo, toutes les productions... Mais la deuxième partie est consacrée à un certain nombre de dérivés du roman photo qui nous ont interpellés, intéressés par des productions très particulières. Alors il y a une première partie sur ces romans photos qui apparaissent, là encore en Italie, à la fin des années 60. Sexy, noir, qui annonce la grande vague après pornographique. Le roman photo a été là aussi une industrie à la production colossale. Et puis, le roman photo humoristique et satirique avec Charlie Hebdo et des productions détonnantes dans les années 60. Et ça, effectivement, nous consacrons une bonne partie de l'exposition aussi à ça.
Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 septembre. Pays de papier, les livres de voyage et romans photo. Pays de papier, avec America Parasmart, David Martens, Anne Reverso et Marc Washburn. Roman photo, America Parasmart et Frédéric Deschamps.
Il faut comprendre que le roman photo a quelques exceptions, par exemple... Hubert Serra, qui a été le grand réalisateur de romans photos pour femmes d'aujourd'hui, et qui disposait, lui, de moyens assez considérables pour l'époque. Mais en général, c'est une économie beaucoup plus... Un roman photo se réalisait en une semaine, avec une équipe resserrée. C'était des budgets qui ne sont pas ceux du cinéma. Donc après, ça dépend. Il y avait des équipes, quelquefois, assez étoffées, où il y avait... un scénariste, un réalisateur, un photographe. Il arrive que je connais des réalisateurs contemporains de romans photo. Quelquefois, ils font appel à des scénaristes extérieurs. Quelquefois, ils font eux-mêmes le scénario. Donc, c'est à géométrie variable, cette histoire des équipes. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'à chaque fois, forcément, là, pour le coup, il y avait un photographe, et que le photographe n'apparaît quasiment jamais au générique. Quelquefois, il y a le réalisateur, mais même pas toujours. C'est-à-dire, c'était des productions, si vous regardez les magazines, il y a très souvent ni le nom des acteurs, ni le nom du réalisateur, ni encore moins le nom du photographe. Voilà, c'était ce qui dit bien que ce n'était pas considéré comme une œuvre d'art.
Et dans l'exposition apparaît une publication éditée dans les années 80 et publiée aux éditions de Minuit d'une photographe belge.
Marie-Françoise Plissard.
Musée de la photographie Charleroi, jusqu'au 22 septembre, pays de papier et romans photo, par Thierry Genicot.
Marie-Françoise se revendique clairement de l'héritage du roman photo. Il y a une chose qui est présentée aussi dans l'exposition qui a été décisive dans l'évolution du roman photo, c'est La jetée de Chris Marker.
Encore lui.
Qu'on retrouve aussi dans l'exposition à côté, qui a été à l'origine de pas mal de collections, de la fameuse collection Petite Planète. Donc, effectivement, Chris Marker est quelqu'un de très intéressant, un type multifacette qui était vraiment ancré dans son époque, qui a fait plein de choses, de photographies, de films, de livres, etc.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et autre lien avec le roman photo, j'y pense, c'est Vue, c'est-à-dire c'est la production de magazines illustrés dans les années 30, qui figure aussi dans le roman photo, et qui a vraiment été une sorte de fer de lance, de tremplin pour la photographie de l'entre-deux-guerres. Et là aussi, on trouve vraiment des grands noms de la photographie, des grands noms de la littérature qui sont réunis sur les mêmes pages. Et c'est vrai qu'on montre beaucoup de Vue et le roman photo aussi.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.